Alors, Guy de Bailleul, coprésident de l'Institut Jean Garon, pour faire suite à notre échange du premier podcast sur la politique américaine, on va parler un petit peu du bilan de 2023, un peu des visions qu'on peut avoir pour 2024 en agriculture et pas seulement aux États-Unis, également au Canada, pour faire le lien avec les Américains. Justement, si on parle de la gestion de l'eau, bon, on sait que le CAPI a sorti un rapport récemment, mais globalement, sur la gestion de l'eau, on apprend dans ce rapport qu'on détient 20% de l'eau douce dans le monde. Donc on est le principal propriétaire d'eau douce dans le monde. Est-ce que ça nous positionne d'une certaine façon dans une situation complexe vis-à-vis de nos voisins américains pour le futur?
Je pense qu'effectivement, c'était déjà un enjeu, ça a été longtemps un enjeu entre les États-Unis et le Canada, parce qu'on se souviendra que dans les années 60, les États-Unis avaient souhaité pouvoir avoir accès à davantage d'eau canadienne, en quelque sorte, en réalisant même des grands ouvrages qui détourneraient l'eau de certaines rivières canadiennes vers les États-Unis. Et on était dans les années 60, on ne faisait pas encore face à la crise actuelle de l'eau qui frappe les États-Unis, et notamment l'ouest des États-Unis, et qui a notamment en agriculture des conséquences gigantesques. On voit des fermes laitières obligées de migrer depuis la Californie vers d'autres régions pour des raisons associées à la rareté de l'eau. Alors, je serais surpris que les États-Unis ne reviennent pas à la charge en ce qui concerne le partage, en quelque sorte, des ressources en eau du continent nord-américain.
Alors, si la crise de l'eau n'est pas si loin, mais est encore un peu lointaine, il y a une crise qui est bien réelle au Québec, c'est la crise porcine. Quelle lecture vous avez fait en 2023 de la crise porcine? Je sais que l'Institut a sorti un rapport de 8 ou 12 pages. Vous aviez fait un constat déjà cet été. Mais quel constat vous faites en fin d'année 2023 de la crise porcine? Et quelle est un petit peu la vision qu'on peut se donner pour 2024, sachant les difficultés que vivent actuellement Solio, Limel et l'ensemble même des producteurs porcins?
Alors, c'est difficile à imaginer un scénario à court terme de sortie de crise, compte tenu de l'accumulation des problèmes que l'on a vu au cours de l'année récente, aussi bien du côté effectivement des transformateurs que des producteurs. En fait, à bon jour, il faudra tirer le bilan de cette saga du porc dont on avait fait l'exemple de réussite agricole pour le Québec dans les années 80 et 90. Et on s'aperçoit que, en fait, ça a procédé d'une succession d'erreurs, de stratégie ou de manque de vision. Il reste qu'aujourd'hui, on est face à une production qui, pendant 40 ans, a largement bénéficié du soutien public et pour grossir, en quelque sorte. Et maintenant, elle doit bénéficier d'un même soutien du public pour se réduire.
Parce que vous disiez, d'ailleurs, je pense, dans le rapport de l'Institut Jean Garon, que sur 30, en fait, l'ASRA, l'assurance stabilisation, a déclenché comme 38 fois sur 42 ou 43
années. Oui, je pense que c'est ça. 30, ça dépend s'il s'agit des porcelets ou des porcs, mais en gros, c'était trois quarts des années, on a dû soutenir la production porcine. Alors, c'est d'autant plus surprenant, en quelque sorte paradoxal, que c'était une production qui exportait largement, par exemple, vers les États-Unis. Et qu'on aurait dû tomber sous le coup des pratiques de dumping, en quelque sorte. Mais là encore, la situation du Québec, le port du Québec étant un port canadien, effectivement, il n'y a pas eu de poursuite, mais ça aurait pu être le cas. Donc, effectivement, on a une production qui a été largement soutenue par les pouvoirs publics. Et là, on est en train de gérer sa décroissance.
On gère la décroissance, encore une fois, avec de l'argent public, ce qui dérange dans certains milieux, de voir que c'est encore l'argent public qui est utilisé. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas cet argent public, quels sont les dangers pour l'agriculture? Parce qu'en fait, on s'entend que Olimel Solio, c'est une base solide en agriculture.
On doit exclure l'idée qu'on va retirer simplement la prise et puis qu'on laisse faire les choses. Effectivement, compte tenu de l'importance des emplois, l'importance des fonds qui sont investis dans ces productions, il faut trouver des modalités de sauvetage. Mais je pense que ça justifie le fait que le gouvernement reprenne l'initiative en ce qui concerne les destinées de ce secteur et qu'il reprenne l'initiative en décidant, par exemple, quels vont être les secteurs, les types de production porcine qui seront les plus encouragés, aussi bien du point de vue de l'élevage que du point de vue de la transformation, quel type de produits on va privilégier, etc.
Est-ce que l'initiative aussi du ministère, du ministre, en fait, et l'initiative, je veux dire, le leadership en tant que tel du MAPAC peut être aussi dans une demande de plus de transparence dans le secteur pour que les abattoirs attachés à des productions ouvrent leurs livres? Est-ce que ce serait une possibilité?
Ça paraît clair de ce côté-là, parce qu'effectivement, on a une très faible connaissance de la façon dont les acteurs sont interconnectés. Je pense à tout ce qui est la production intégrée. Quelles sont la partie des élevages qui sont soit en intégration, mais même possédées par des transformateurs, parce que on sait que c'est une tendance de plus en plus présente. On voit la même chose d'ailleurs en Europe, où on s'aperçoit que des coopératives possèdent un nombre impressionnant de fermes d'élevage. Donc, en fait, il y a un minimum de transparence à attendre de ce côté-là.
Et l'autre sujet, évidemment, très important et très, très regardé par l'Institut Jean Garon, j'imagine, c'est la consultation actuellement sur le territoire agricole. Il y a eu deux fascicules actuellement qui sont sortis. Vous avez déjà fait un premier mémoire pour le premier fascicule. Je pense que le deuxième est en route. Évidemment, le troisième fascicule sur la propriété des terres va être très attendu par beaucoup de gens. Quel est le bilan à cette heure-ci que l'Institut peut tirer, en fait, de cette consultation? J'ai sûr que les conclusions ne sont pas encore sorties, mais avez-vous déjà un pressentiment de ce qui pourrait se passer? Avez-vous déjà une vision à nous donner?
On ne peut que rester optimiste, enfin souhaiter effectivement une conclusion tout à fait positive de cette consultation. Mais jusqu'à présent, on n'a pas été très impressionné, disons, par la portée, la vision des deux premiers fascicules, tant sur le plan de la protection que sur le plan de la distribution des activités agricoles. On a des constats, on a peu d'explications. Peut-être que c'est au public à apporter ou à suggérer des explications, mais c'est quand même un peu surprenant. On attend du public plutôt, enfin des acteurs, des propositions. Face à des analyses, là, sur le plan des analyses, on n'est pas allé très loin. On attend avec intérêt le troisième fascicule, ce qui va permettre de boucler les choses, parce que effectivement la propriété des sols agricoles et l'évolution de cette propriété est un enjeu considérable. Mais ce qui apparaît essentiel, c'est que et on sera amené à le réaffirmer, on l'a déjà mentionné, c'est que on ne peut pas séparer la protection des terres agricoles de l'ensemble des mesures de politique agricole qui conditionnent l'usage de ces terres agricoles. Et donc ça veut dire que implicitement, ça n'est pas un exercice qui porte seulement sur la protection des terres agricoles, mais c'est sur le type de politique agricole qu'il est nécessaire de soutenir pour faire le meilleur usage de ces terres agricoles.
Merci beaucoup, M. Le Bailleul, et on va suivre le regard de l'Institut Jean Garon en 2024 sur ce sujet.